Bonjour. L'Afghanistan est un pays aux montagnes immenses, à la culture riche et aux traditions anciennes. Mais c'est aussi un pays où la vie quotidienne a été bouleversée par des années de conflits et de changements politiques. Pour beaucoup de familles, le quotidien est devenu une lutte faite d'incertitudes. Au cœur de cette réalité, il y a des femmes, des mères, des filles qui possédaient autrefois des droits, mais après le retour des talibans en 2021, ceux-ci se sont peu à peu renfermés, allés à l'école, travailler, se déplacer librement. Des gestes simples qui sont devenus pour beaucoup des rêves interrompus, des destins brisés. Aujourd'hui, nous donnons la parole à l'une de ces femmes, Nour Kouban, pour comprendre au-delà des chiffres et des décisions politiques ce que signifie vraiment être une femme en Afghanistan. Pour entendre son histoire, son quotidien et ce qu'elle espère encore malgré tout. Au début de ce projet, nous avions pour idée de faire venir sur le plateau une femme afghane habitant Coutances. Mais du fait de ses soucis de santé, nous n'avons pas pu faire aboutir à cette idée. Alors après réflexion, nous avons décidé de faire une interview fictive à partir de témoignages cherchés sur Internet. Bonjour Nour, pouvons-nous commencer cette interview?
Bonjour, oui, allons-y.
Tout d'abord, j'aimerais vous demander comment avez-vous quitté l'Afghanistan?
J'ai quitté l'Afghanistan en 2021, après le retour des talibans à l'âge de 20 ans.
Et quels moments vous ont marqué positivement ou négativement dans votre parcours?
Les moments qui m'ont marqué de manière négative, il y en a beaucoup. Mais je me rappelle que j'étais petite, je n'avais pas la force de me battre. Je détestais ce pays, ma maison pleine de haine, de jugement et de silence étouffant. Je passais mon temps à pleurer. Mais j'ai surtout détesté le moment où j'ai été enfermée dans la salle de bain pendant 3 jours. J'ai dû y manger, y dormir et y faire mes besoins pour me forcer à accepter ce maudit mariage avec cet homme beaucoup plus âgé que moi. Il me faisait les pires horreurs, comme me violer et se justifier en disant que j'étais sa priorité.
J'aimerais également savoir comment c'était d'être une jeune femme en Afghanistan.
Être une femme là-bas, ce n'est pas seulement un genre, c'est être un fardeau pour la société. Des discriminations constantes, de la peur et énormément de souffrance. À la base, j'étais une enfant heureuse et souriante. Mais la société a commencé à façonner ma personnalité pour être ce que l'on me demandait d'être. J'étais sous la pression des regards, des traditions et de mon père. J'ai grandi sous la violence.
Dans ces moments difficiles comme ceux-là, qu'est-ce qui vous a apporté de la force?
La lecture et les livres étaient mon échappatoire et ma force. Mais le livre qui m'a vraiment marqué, c'était La lumière grise de Zahra Yeghaneh, qui parlait des mariages forcés et des femmes afghanes. Je l'ai lu 5 fois. C'était devenu ma lumière dans mon esprit brouillé par les idées noires. Il me donnait la motivation de surmonter les épreuves que je vivais.
Et j'aimerais savoir quel rêve vous tient encore à cœur aujourd'hui?
Je rêve d'être ni une esclave ni une servante, mais je voulais devenir une femme intelligente, déterminée et écrire un livre sur la vie des femmes en Afghanistan.
Est-ce que vous étiez présente lors de la prise de pouvoir des talibans et si oui, comment vous l'avez vécu?
C'était quelque chose d'horrible, car j'ai été forcée d'être mariée à l'âge de 15 ans avec un homme de 30 ans. J'étais méprisée sur mon genre. C'est comme si nous étions mises en cage. Nous ne savons plus qui nous sommes réellement. Je savais dans l'ombre aux yeux de la société. Je n'existais plus. J'avais plus le droit d'avoir d'opinion sur quoi que ce soit.
J'ai une dernière question pour cette partie sur votre vécu. Trouvez-vous que les autres pays aident l'Afghanistan?
Non, nous attendons un soutien de la communauté internationale, mais elles n'interviennent pas. Elle ne fait que d'observer, alors qu'avec leur soutien, les choses auraient pu changer. Néanmoins, la Belgique a apporté de l'aide à 1 millier de personnes.
Ok, alors après avoir pris en compte vos témoignages sur votre passé en Afghanistan, nous allons passer à votre ressenti en France. Premièrement, quelles ont été vos premières impressions en découvrant la France?
Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai ressentie, c'est un mélange de soulagement et de vide, car j'étais loin des talibans. Mais j'avais tout laissé derrière moi, ma famille, mon travail et ma maison. Voir des femmes marcher seules dans la rue, travailler, conduire, rire dans les cafés, comme si c'était normal, en Afghanistan, on nous a effacés de l'espace public.
En arrivant, quelle a été la chose qui vous a le plus surpris?
J'ai été très surprise de voir que les filles vont à l'école sans se poser des questions. Chez nous, les adolescentes ont été renvoyées chez elles du jour au lendemain, comme si leur avenir ne comptait pas. La solidarité de certaines personnes m'a étonnée. Des familles françaises ouvrent leurs portes, des bénévoles qui donnent de leur temps pour nous aider à tout recommencer. Ce qui m'a choqué aussi est le changement des cultures, car rien n'était pareil. Arriver dans un pays où tout le monde parle une autre langue que la nôtre n'était pas si facile non plus.
Et aujourd'hui, comment décrivez-vous votre quotidien?
Mon quotidien aujourd'hui, c'est d'apprendre le français, les codes, les papiers, la ville. Je vais à des cours organisés par une association, je fais des démarches pour l'asile. Je m'occupe de mes enfants et j'essaie de ne pas penser à tout le temps que j'ai perdu. De plus, la vie est plus sûre qu'en Afghanistan, mais elle reste précaire. On vit dans un centre d'accueil ou dans un petit appartement avec peu de moyens, dans l'attente de décisions administratives qui peuvent changer notre vie.
Et qu'est-ce qui vous a été le plus facile à vivre en France ?
Le plus facile, c'est le sentiment de sécurité physique, ne plus entendre de tir, ne plus avoir peur à chaque point de contrôle, savoir que l'État ne va pas venir m'arrêter parce que je suis une femme qui travaille. C'est aussi plus facile de respirer en tant que femme, sortir sans être constamment insultée ou menacée, voir que ici, une femme qui se plaint de violence peut être écoutée.
Et maintenant, qu'est-ce qui reste encore difficile pour vous ?
Ce qui est difficile, c'est la langue. Ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressent, dépendre d'un interprète pour tout, même pour raconter son histoire à l'office de l'asile. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre des cours de français pour pouvoir communiquer. Puis, il y a aussi la distance avec ma famille restée en Afghanistan ou coincée dans un pays voisin qui nous fait extrêmement peur car nous ne savons pas ce qui se passe pour eux. Chaque message et chaque appel peut annoncer une mauvaise nouvelle. C'est ce qui m'est arrivé en arrivant en France. J'ai appris que mon père a été tué parce que moi et mon mari, nous avions décidé de fuir. On vit avec cette peur en permanence. Il nous reste beaucoup de traumatismes. On a l'impression qu'on nous a ouvert le ventre. Nous avons un drapeau afghan dans le salon du centre afin de rester comme on peut le plus proche de notre famille. Notre vie sera pour toujours différente car nous sommes obligés de nous cacher, mais nous sommes heureux.
En arrivant en France, comment vous êtes-vous senti accueilli ?
Je me suis senti accueilli par certaines personnes et associations. Des bénévoles nous ont attendus à l'aéroport, nous ont expliqué nos droits ainsi que les endroits où nous pouvions aller. Nous avons aidé à nous inscrire à des cours. Sans eux, nous serions complètement perdus. Mais l'accueil n'est pas toujours simple car les procédures sont longues, la bureaucratie est compliquée et parfois on a l'impression que notre vie est suspendue à des décisions que personne ne nous explique vraiment. Nous avons aussi été très bien accueillis par les autres personnes du centre qui sont maintenant devenues une famille.
Et du coup, avez-vous rencontré des personnes ou alors des associations qui vous ont aidé ?
Dès notre arrivée, nous avons été orientés vers un centre d'accueil où des travailleurs sociaux et des associations nous ont aidés pour le logement, la scolarisation des enfants et les démarches pour l'asile. J'ai aussi rencontré des militants qui se battent pour le droit des femmes afghanes, qui organisent des conférences, des manifestations et qui nous donnent la force de raconter notre histoire.
Dans ce pays, avez-vous parfois ressenti de la discrimination ou alors au contraire une solidarité particulière ?
J'ai parfois senti de la méfiance, des regards qui jugent parce que je porte un voile ou parce que je ne parle pas très bien le français. Parfois, on nous parle comme si on était moins intelligent parce qu'on est des réfugiés. Mais j'ai aussi découvert une grande solidarité. Des familles qui hébergent des Afghans chez elles, des voisins qui proposent de garder les enfants, des professeurs qui soutiennent les élèves réfugiés. Sans cette solidarité, je n'aurais pas tenu.
Est-ce que en France, vous vous sentez en sécurité ?
En France, je me sens beaucoup plus en sécurité qu'en Afghanistan. Je n'ai plus peur que les hommes armés débarquent chez moi parce que je travaille, étudie ou parle publiquement. Mais je garde des traces de ce que j'ai vécu. Je fais encore des cauchemars, je sursaute quand j'entends des bruits forts. La sécurité, ce n'est pas seulement le pays, c'est aussi ce que l'on porte en soi.
Suivez-vous encore ce qui se passe chez vous ?
Évidemment. Nous regardons tous les jours les infos qui parlent de l'Afghanistan. Nous voyons des personnes être renvoyées dans notre pays, des personnes se faire arrêter dans la rue sans mandat, d'autres détenues sans procès. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des jeunes hommes fouettés en public pour avoir écouté de la musique ou des femmes car elles n'étaient pas entièrement couvertes, ainsi que beaucoup de personnes torturées et violées.
Maintenant que vous êtes en France, quels sont vos projets ?
Mon premier projet, c'est d'obtenir l'asile, pour ne plus vivre dans la peur d'être renvoyé. Ensuite, je veux apprendre suffisamment le français pour travailler à nouveau, retrouver une dignité. J'aimerais reprendre des études ou un travail dans le domaine où j'étais engagée en Afghanistan, que ce soit l'éducation, la santé ou le droit des femmes, et utiliser mon expérience pour aider d'autres réfugiés.
Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui ne connaissent pas la réalité vécue par les femmes afghanes ?
Aux personnes qui ne connaissent pas notre réalité, je voudrais dire que ce que vous voyez dans les reportages n'est qu'une partie de ce que nous vivons. Les femmes en Afghanistan sont enfermées, réduites au silence, privées d'école, de travail et de liberté. Quand vous entendez parler de réfugiés afghanes, souvenez-vous que nous ne sommes pas partis par choix. Nous avons fui pour rester en vie. Soutenir notre accueil ici, c'est aussi soutenir celles qui sont restées là-bas et qui n'ont plus de voix.
Et dernière question, qui aimeriez-vous remercier ?
Nous aimerions remercier les autorités de nous avoir permis d'échapper à la mort. Je serais morte parce que je suis une femme indépendante et intelligente. Et mon mari serait mort après moi parce qu'il aurait voulu que je sois libre.
C'est la fin de ce témoignage. Aujourd'hui, les femmes en Afghanistan vivent une réalité très difficile. Elles ont perdu des libertés essentielles que nous considérions comme normales ailleurs. Malgré tout, elles continuent de faire preuve d'un grand courage et d'une grande force. Leur situation nous rappelle que les droits des femmes ne sont jamais totalement acquis et qu'il est important de rester solidaire et actif à ce qui se passe dans le monde. Nous aimerions remercier Nour Kurban d'avoir pris de son temps pour répondre à nos questions. C'était Axel, Guiliana et Louane.
Merci Axel, Guiliana et Louane. Raphaël, Emma et Adèle vont être aussi intéressés au regard porté sur l'Afghanistan et ses ressortissants à travers un micro-trottoir.
Si Charles le dit, soyez tranquille, c'est vérifié. Le 2 et 3 février,
de 10h à 16h,
sur 87.7 FM et sur zonetourne.org.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Face à cette réalité, nous avons décidé de nous adresser directement aux personnes du lycée Lebrun, élèves, personnels et professeurs, afin d'en savoir plus sur la connaissance ou pas du grand public sur cette véritable injustice.
Pour commencer, nous leur avons demandé ce qu'ils pouvaient nous dire à propos de la situation des femmes en Afghanistan aujourd'hui. Voici leur réponse.
Il me semble que la situation des femmes en Afghanistan aujourd'hui est plutôt compliquée.
Il y a un manque de liberté énorme. Qu'elles sont considérées à peine comme des humains.
Comment ça s'appelle? Opprimées. Elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles n'ont aucune liberté d'expression.
Je crois que c'est difficile pour elles au niveau de leur liberté d'expression, de liberté dans tout genre, même pour se déplacer, pour sortir de chez elles, pour plein de choses, je crois.
En effet, depuis ce mois d'août 2021, des restrictions injustes se sont succédées, toutes ayant pour but de rayer définitivement les femmes de la vie du pays.
Certains, cependant, n'ont pas su répondre à notre question et nous ont fait des réponses hésitantes.
Je sais
elles
n'ont
plus le droit d'aller à l'école.
Elles n'ont plus le droit de travailler, de s'instruire.
Ah, le manque d'accès à l'école.
Je sais pas, c'est dur, je connais pas.
Soumises aux droits des femmes.
Soumises aux droits des femmes.
Elles sont juste soumises en Afghanistan, mon gars.
Mais la plupart ont été capables de nous dire concrètement jusqu'à quel point va ce manque de liberté.
Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école.
Elles n'ont plus le droit de travailler, de s'instruire.
Le manque d'accès à l'école, c'est leur supprimer une bonne partie de leur avenir. C'est-à-dire avoir le droit de travailler, donc d'être autonome, d'être indépendante.
Ils ne peuvent pas sortir, il me semble, sans être accompagnées d'un homme.
De sortir non accompagnée d'un homme.
Qu'elles n'ont pas, par exemple, le droit de passer le permis de conduire sans l'autorisation de leur mari.
Elles sont obligées d'être voilées entièrement.
C'est la grosse galère, ouais.
Elles n'ont plus le droit à la parole dans l'espace public.
Ça devient de pire en pire, quoi.
Voilà, ça se dégrade. C'est de pire en pire chaque jour.
En effet, depuis août 2021, ce que traversent les femmes afghanes au quotidien, c'est un labyrinthe d'interdits qui encadre tout.
Les Afghanes n'ont pas le droit de continuer l'école après la maternelle.
Elles ne peuvent pas voyager sans être accompagnées d'un mari ou d'un frère.
Elles sont exclues de la plupart des emplois,
des parcs publics,
des salles de sport,
bibliothèques et cafés, et il leur est interdit de parler fort en public.
Face à cela, nous avons pu découvrir leur réaction.
Déjà, c'est impressionnant qu'on puisse encore voir ça de nos jours.
Je réagis en me disant que les femmes françaises ont de la chance.
Alors moi, j'aurais tendance à être effrayée.
Moi, je suis désespérée. On est tous désespérés, je suppose, en tant que femme déjà. Mais en tant qu'être humain, c'est désespérant.
La déshumanisation des femmes en général, je trouve que c'est quelque chose d'effrayant. Et j'ai bien peur que ça prenne encore plus d'ampleur et qu'on en arrive effectivement à des situations qui ne soient pas, même pas envisageables pour des êtres humains, quoi.
Ça montre qu'encore une fois, on a besoin du féminisme. Les droits des femmes ne sont pas partout pareils, alors que celles des hommes sont partout pareils, et c'est pas normal.
L'avenir des femmes, c'est comme l'avenir des hommes, c'est l'avenir de la planète. Plus il y a de personnes en moins à être instruites, moins il y a d'avenir.
Ça me pose question aussi, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, à notre niveau? C'est pas facile.
Et oui, monsieur Hamel, que pouvons-nous faire à notre niveau? Mais avant de nous poser cette question, quel rôle joue la communauté internationale? En fait-elle assez?
Je crois que quand il y a une situation qui perdure, c'est qu'on n'en fait jamais assez.
Non, je pense que effectivement, c'est pas du tout assez pris en compte. La communauté internationale doit aussi se saisir de ce sujet-là.
Quand la réponse non paraît unanime, d'autres ont des avis plus réalistes.
À mon sens, les pays de l'ONU ne peuvent pas s'interposer contre ça. Je pense que les lois religieuses ont pris le pas sur les lois civiques.
Cependant, tout le monde s'accorde à dire que...
Non, je pense pas. Non, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau international. Je suis pas très bien informé non plus, mais on n'entend pas grand-chose, c'est vrai.
Mais je pense aussi qu'on n'a pas assez d'informations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont censurées et qui sont malheureusement pas portées à la connaissance du grand public. La réalité, effectivement, de leur quotidien, pour moi, on n'en est pas assez tenu informé.
Et surtout, est-ce que les élèves, professeurs et personnels du lycée Lebrun se sentent concernés?
Me sent concerné directement, non.
Honnêtement, je ne me sens pas trop concerné.
Je pense que tout le monde devrait se sentir concerné.
Évidemment, étant une femme, nous sommes tous concernés par cette situation.
Des réponses donc nuancées. Et pour terminer, voici le message qu'ils souhaiteraient faire passer aux femmes en Afghanistan, s'ils en avaient la possibilité.
Résistez, battez-vous.
J'espère qu'elles gardent le courage, qu'elles seront plus fortes réunies.
Je pense que la seule solution, c'est d'être très, 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 très nombreux pour initier un mouvement de révolte.
J'aurais envie de dire, ne restez pas seuls.
Pour refuser ça, mais en masse.
Faire appel à toutes les associations possibles qui peuvent apporter un minimum d'aide, justement, dans leur situation.
Et surtout, j'espère que les instances internationales vont pouvoir réagir.
Et comme disent si bien Lucia et Anatole,
que la force soit avec vous.
Charles l'a dit, en direct du lycée Lebrun à Coutances. Sur 87.7 FM et sur zonedone.org.
There was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine. All the lads and girls would sing when we sat at little tables and drank May wine. Now April, May and June are sadly out of tune. Life has stuck the pin in the bone. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody doesn't the night invite me?